Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes en forme? Nous autres aussi, on est contents de revenir de vacances. Je me présente, je m'appelle Yannick Etier, je suis un des pasteurs ici à l'église. Ceux qui ne me reconnaissent pas avec ma grosse barbe, c'est moi. On a passé des belles vacances et c'est ça. Alors, je suis un des pasteurs sur l'équipe ici. Ça me fait plaisir de vous accueillir. J'espère que vous allez passer du bon temps avec nous ce matin. Et dans notre jargon à nous, j'espère que vous allez être édifiés, que vous allez être bénis, que Dieu va venir vous rencontrer, soit à travers la louange, à travers le message de la parole. Tout à l'heure, on va parler ensemble de la volonté de Dieu pour nos vies. Est-ce que c'est quelque chose qu'on désire? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? La volonté de Dieu pour nos vies. Ensuite de ça, on va aller ensemble dans un temps où les chrétiens, depuis près de 2000 ans, font une commémoration, se rappellent du sacrifice que Jésus a accompli à travers un repas. On appelle ça le repas du Seigneur. Et tout à l'heure, on va prendre ça ensemble pour se rappeler de ce que Christ a fait en mourant sur cette croix. Je vais expliquer un petit peu plus ça tout à l'heure, mais si c'est la première fois que vous voyez ça, si vous n'êtes pas familier, si vous n'avez pas été baptisé, sentez-vous bien à l'aise de laisser passer les éléments tout à l'heure. Les placeurs vont distribuer des plateaux, tout ça. Et puis, ensuite de ça, on va chanter ensemble, parce qu'on veut répondre à tout ce que Dieu va avoir fait bouger dans nos cœurs. Et puis, on va prendre aussi des dons, des offrandes. On soutient des causes et puis on soutient ici l'œuvre à Longueuil. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas régulier ici à l'église, sentez-vous bien à l'aise de laisser passer les sacs d'offrandes. C'est vraiment pour supporter l'œuvre ici. Et la matinée devrait se terminer environ vers 11h. Alors, si c'est la première fois que vous venez ici à l'église, j'espère que vous allez passer du bon temps. Je veux vous inviter à venir nous voir si vous avez des questions, aller au kiosque d'information après le service. Sentez-vous bien à l'aise. Si vous voulez visiter les locaux, voir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, les cours, tout ça, on a des gens qui peuvent prendre le temps de vous faire visiter les locaux après le service. Vous pouvez même accompagner votre enfant tout à l'heure lorsqu'il va se diriger vers la zone des explorateurs et Danny va pouvoir répondre à quelques questions à ce moment-là. Ça va nous faire plaisir de faire ça. Ce matin, j'ai un petit peu plus d'annonces qu'à l'habitude parce qu'on est en train de préparer dimanche prochain. Qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? Le lancement des explorateurs, d'accord? Alors, les enfants, la semaine prochaine, amenez vos parents ici. Les parents, les grands-parents, soyez ici. Arrivez à partir de 8h30, s'il vous plaît, la semaine prochaine. À partir de 8h30, il va y avoir des activités pour les enfants, des jeux gonflables, collations, des choses comme ça. Et puis, le service va commencer plus formellement vers 9h30. Mais on va présenter aussi, il va y avoir des tables avec tous les cours bibliques pour les adultes à compter de 8h30. Alors, si vous avez des questions, je vais les annoncer brièvement ce matin, mais si vous voulez parler avec les professeurs, voir quel cours vous intéresserait, il faut être là dès 8h30, venir poser des questions, amener les enfants, tout ça, puis on va avoir le service. Et après le service, on va avoir un repas, une agape, comme on dit, donc un repas ensemble. Donc, on vous invite à rester, ça peut traîner tout ça jusqu'à 1h de l'après-midi. Vous êtes bienvenus à rester, c'est un bon temps aussi pour connecter ensemble. Ceux qui veulent participer, qui veulent contribuer au repas, que ce soit par des croustilles, des repas, des plats principaux, tout ça, on vous demande de vous rendre à une table à l'arrière après le service pour aller inscrire ce que vous allez apporter la semaine prochaine pour le repas. D'accord? Alors, je vous présente les cours brièvement. Et cette année, je vais vous mentionner un cours qui n'est pas pour les adultes, juste pour rendre les adultes jaloux, mais qui va être pour les jeunes, pour la jeunesse et les 12-16, sais-tu bien ça? Alors, les 12-16 vont avoir le privilège cette année. Évidemment, on a des cours pour tous les enfants. On va en parler davantage dans le lancement la semaine prochaine. Mais pour les 12-16 ans, Mathieu Ferland va aller donner son cours sur la Genèse. Sur les chapitres 1 à 11 de la Genèse, Mathieu a étudié dans le domaine des sciences environnementales. Donc, il a été amené à étudier cette question-là à fond. Il a donné son cours pour les adultes à quelques reprises. Mais on s'est dit que c'était vraiment pertinent pour nos jeunes qui rentrent au secondaire, qui arrivent au secondaire, qui ont toutes sortes de questions sur l'approche l'évolution, le créationniste, Genèse 1, 2, 3, et il développe comme ça jusqu'à 11. On vous le mentionne ce matin parce que si vous n'avez pas l'habitude d'amener vos jeunes à 9h, ce programme-là commence à 9h dans deux semaines, si vous n'avez pas l'habitude d'amener vos jeunes à 9h, c'est définitivement extrêmement pertinent pour eux. Et Mathieu est un gars qui va s'adapter, qui va chercher à être dynamique avec les jeunes. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière pour nous situer. La semaine prochaine, c'est le lancement, j'ai oublié de mentionner ça. Et le dimanche suivant, on prend notre horaire habituel, ça veut dire les cours bibliques sont à 9h et le service de la célébration de louange est à 10h15, d'accord? La semaine prochaine, le lancement, l'autre semaine, on commence les cours. C'est quoi les cours pour adultes cette année? Je vous les présente brièvement. Alors évidemment, la foi chrétienne expliquée, tout commence par là pour nous avec Herman Chatté. Ça veut dire si vous êtes en cheminement, vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, pas familier avec
l'Évangile. Si je dis le mot Évangile et que pour vous, ça veut dire Bible, probablement que vous devriez commencer là parce que l'Évangile, c'est le message central de la Bible, d'accord? Et donc, la foi chrétienne expliquée, bien, c'est ça, à travers l'Évangile selon Marc, un des quatre Évangiles. En 7 semaines, vous allez être introduit au message que Jésus-Christ a apporté et vous allez le faire d'une manière par lecture vous-même. Vous allez lire tranquillement. Tranquillement des passages, vous préparez avec des questions et Herman va être là pour répondre à vos questions puis des fois faire des détours aussi. Herman aime prendre le temps d'écouter d'autres questions que vous auriez concernant la foi, peut-être répondre à la fin, mais faire des détours au besoin si vous avez des questions très sérieuses par rapport à la foi chrétienne. Un autre cours, si vous avez pris une décision déjà pour Christ, évidemment, le premier pas qu'un chrétien va faire, c'est qu'il va témoigner publiquement de sa foi en Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Vous êtes dans une église protestante évangélique ici, et les gens que nous baptisons, ce sont des gens qui ont fait un choix personnel. Nous ne baptisons pas les enfants simplement parce qu'on croit que le rôle des parents, c'est d'instruire leurs enfants dans la foi, c'est vrai, mais il revient à l'enfant un certain âge. Lorsqu'il arrive vraiment un âge où il peut prendre des décisions, rarement ça va se faire avant 15-16 ans même dans nos églises, mais l'enfant va prendre une décision à ce moment-là de se faire baptiser, mais c'est la même chose pour les adultes. Alors, si vous êtes rendu à cet endroit-là, vous avez fait un choix personnel de suivre Jésus-Christ, de placer votre foi en Jésus-Christ, vous dites « Moi, je suis chrétien », vous pouvez prendre ce cours avec Robert Saint-Pierre, un autre des pasteurs ici, et il va vous accompagner, il va voir avec vous qu'est-ce que c'est le baptême, selon les Écritures, et il va vous accompagner aussi pour préparer votre témoignage, parce que les gens qui se font baptiser, c'est des matinées vraiment magiques pour nous, ils viennent dire un mot de témoignage où ils vont partager ça a été quoi leur cheminement dans la foi. Et souvent, ils vont inviter des gens de la famille et tout ça, c'est vraiment des beaux moments. Un autre cours ensuite, l'Église de l'Espoir, c'est notre cours de membres. Alors, si vous voulez vous joindre officiellement à l'Église ici, vous dites ça, c'est mon assemblée locale, je veux me joindre à cette assemblée, je veux servir ici. Je désire que les pasteurs soient mes pasteurs, qu'ils prennent à cœur de s'informer comment est-ce que ça va spirituellement, est-ce que j'ai besoin d'aide, tout ça, que l'Église puisse à quelque part m'entourer dans ma démarche spirituelle et que je puisse moi-même m'investir. C'est le cours à prendre pour nous connaître davantage. Si vous venez ici depuis quelques mois, ce que vous connaissez, c'est à travers les prédications, à travers peut-être les prédications sur le site web, des choses comme ça. Mais est-ce que vous savez véritablement ce que nous croyons? Quelle est notre confession de foi? Pourquoi est-ce que nous croyons telle ou telle chose? C'est des choses qu'on voit à travers ce cours-là. Quelle est notre vision? Où s'en va l'Église de l'Espoir dans les prochaines années? Comment est-ce qu'on fonctionne comme Église, comme corps de Christ? Comment est-ce qu'on est organisé ensemble pour s'édifier, pour s'encourager? C'est dans ce cours-là qu'on voit ces choses-là. Et à la fin du cours, si vraiment vous êtes en paix de vous joindre à l'Assemblée, à ce moment-là, vous remplissez un formulaire, vous dites « J'aimerais devenir membre de l'Église ici ». Un des pasteurs va prendre le temps de vous rencontrer. Et il y a un petit processus pour vous accueillir comme membre de l'Église. Évidemment, si ça fait plusieurs années que vous êtes au Seigneur, et pour la grande majorité d'entre vous, c'est le cas, bien, il vient un moment où Dieu commence à parler à nos cœurs à travers sa parole, commence à nous parler de formation de disciples. Parce que le cheminement vers la maturité pour un chrétien, c'est un petit peu comme le rêve de la majorité des adultes, d'avoir un jour des enfants et de pouvoir se reproduire à quelque part en s'investissant dans la vie de nos enfants, en leur communiquant des valeurs, en leur faisant découvrir le monde. Eh bien, c'est vrai aussi dans le cheminement spirituel. Personnellement, j'ai toujours été entouré de coachs qui faisaient ma formation comme disciple. Et même si ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien, j'ai encore un coach dans ma vie qui me connaît personnellement, qui me rencontre régulièrement, qui me demande des comptes, qui me conseille, qui m'accompagne, que je peux appeler. Cette semaine, je lui ai parlé au téléphone, j'ai dit « j'ai besoin de vos conseils ». Puis je l'ai appelé, il était disponible, il arrivait à Toronto. Le lendemain matin, il m'appelle « formation de disciple ». Maintenant, ça s'apprend, d'accord? Et peut-être que vous n'avez pas eu ce privilège-là vous-même d'être formé comme disciple, mais vous dites quand même, j'aimerais ça commencer à m'investir dans ça. À travers ce cours-là, on voit les principes en partant de ce que Jésus a enseigné sur la formation de disciple. On voit des principes. Qu'est-ce que c'est la formation de disciple? Qu'est-ce que ça veut dire accompagner quelqu'un dans sa croissance spirituelle? Et vous n'avez pas besoin d'être rendu, d'accord? En dessous de Jésus, c'est possible de faire de la formation de disciple. En dessous des apôtres aussi, c'est possible de faire de la formation de disciple. Moi, j'en fais. Tout le monde peut en faire ici si ça fait quelques années que vous marchez avec le Seigneur. On a deux groupes de prières pour les hommes et pour les dames. Si c'est là que Dieu vous appelle, on a un endroit où vous pouvez aller rencontrer Dieu semaine après semaine. Et je parle de formation de disciples, Puis tous les cours, il y a un volet des fois très, très théorique de ça, où ça vient de l'avant, puis on communique des choses. Mais grandir dans notre vie spirituelle, c'est grandir dans notre vie de prière. Et Dieu sait que dans ces groupes-là, il y a de la croissance spirituelle véritable et profonde qui se passe, parce que des gens se rencontrent semaine après semaine pour prier ensemble pour des besoins bien réels où Dieu est en train de faire une œuvre, où ils désirent aussi voir Dieu faire une œuvre. Alors, on a un groupe de prière pour les hommes et pour les dames aussi le dimanche matin. Alexandre Marquis, qui est ici à l'avant, qui est un des pasteurs aussi à l'église, va donner un cours. On a vraiment toute une brochette de cours là, cette session-ci, c'est assez extraordinaire. Affection spirituelle. Alexandre va aller voir, en puisant dans l'histoire, en puisant dans les Écritures et en puisant dans l'histoire, on a appris des chrétiens toutes sortes de disciplines personnelles pour rencontrer Dieu quotidiennement, pour cheminer avec Dieu progressivement à tous les jours, à toutes les semaines, pour avancer ensemble et développer cette conviction profonde qu'on connecte avec Dieu et qu'on est attentif à l'œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire. Et il y a des outils pour ça, il y a des moyens que Dieu nous a donnés, sa parole, la prière, mais d'autres encore, des attitudes. Et donc, Alexandre va donner ce cours « Affection spirituelle », comment cultiver cette communion personnelle avec notre Dieu pour le laisser faire cette œuvre puissante qu'il veut faire dans nos cœurs, non seulement au jour de notre conversion, mais jusqu'au jour où il vient nous chercher. Et donc ça va être avec Alexandre Marquis. Changer vraiment comment? Avec Jean-Sébastien et Caroline Frérot. On parle de plus petits groupes, les deux prochains cours. Changer vraiment comment? C'est vraiment un cours où on voit ensemble la dynamique du changement dans une perspective chrétienne. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Comment est-ce qu'un être humain, une fois qu'il a donné sa vie à Jésus, c'est beau, alléluia, tout va bien aller, puis après quelques mois de vie chrétienne, tu dis, wow, attends un petit peu, il y a des choses qui reviennent, il y a des combats qui reviennent, il y a des luttes, il y a des attitudes, il y a des choses que je vois chez moi qui ne me plaisent pas. Comment est-ce qu'on fait pour changer là-dedans? Bien, les Écritures, la Bible nous enseigne un processus biblique de changement. Comment est-ce que le Saint-Esprit se sert de sa parole, des épreuves dans nos vies pour progressivement nous transformer? Notre but, c'est de devenir à l'image de Jésus-Christ, devenir comme Christ, d'accord? Quel est ce processus-là? Et donc, à travers ce cours-là, Jean-Sébastien et Caroline vont voir ça avec vous. Quel est le processus biblique que vous accompagnez? Et bien des chrétiens. Si vous êtes jeune chrétien, vous jasez avec des chrétiens de longue date, vous allez entendre à un certain moment donné des gens qui vont vous dire, « Oui, mais on dirait que tu frappes un plateau à un certain moment donné. » Comme ceux qui font de l'entraînement, tu arrives dans des plateaux et tu dis, « Oui, mais c'est quoi qui se passe qui fait que j'arrive pas comme à continuer à évoluer? » Mais c'est ça, on a besoin de comprendre comment est-ce que l'Esprit travaille à travers sa parole dans nos cœurs. C'est à travers ce cours-là qu'on va le voir. Et enfin, un cours qu'on a déjà donné dans le passé, je suis content de le voir revenir avec notre frère André Hilly, qui va donner « Principes bibliques sur les finances ». S'il y a un domaine que nous avons tendance à évacuer comme chrétiens, peut-être de notre champ spirituel, c'est bien les finances et les biens matériels, et c'est une erreur énorme. Parce que notre gestion de nos finances personnelles, ce qu'on fait avec nos biens matériels, ce qu'on rêve de faire, notre niveau d'endettement, toutes sortes de choses, en dit souvent très, très long sur notre état spirituel. C'est extrêmement spirituel parce que Dieu nous a créés pour vivre dans ce monde-là. Et il y a des milliers de versets dans la Bible qui parlent des biens matériels et des finances. Avec André, c'est un cours qui ne va pas être premièrement dans les Écritures. Il va y avoir une base qui va être déposée dans les Écritures, mais l'accent ne va pas être là tout au long du cours, puisqu'on veut apprendre comment gérer ses finances, comment faire un budget, comment sortir de l'endettement ou ne jamais s'y retrouver, Dieu voulant, et toutes sortes de choses comme ça. Et donc, c'est un cours qui a un volet très, très pratique où André vous accompagne à travers des principes bibliques, mais sur la gestion de vos finances personnelles. On a vraiment une brochette de cours absolument incroyable cette année. Je suis vraiment content de ça. Alors, cherchez la face de Dieu, demandez conseil. Soyez ici à 8h30 dimanche prochain pour jaser avec les profs, voir quel est le bon cours pour vous. Mais vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir grandir dans votre foi à travers ça cette année.
Alors bonjour, j'inviterai tous les enfants de 6 à 12 ans à venir me rejoindre à l'avant. Alors c'est pour moi aussi un plaisir de vous revoir ce matin après plus d'un mois et demi d'absence en raison d'un congé de paternité. Alors on a eu une troisième petite fille à la fin du mois de juillet. C'est une belle grâce du Seigneur, on est bien content de cela. Alors, mon nom, c'est Danny, et moi, je suis responsable du ministère auprès des enfants avec mon épouse. Et c'est moi aussi qui vais animer le temps avec les enfants ce matin durant le message de la parole, avec Betty ici présente. Et si vous avez des enfants aussi de 0 à 24 mois, je vous encourage à les apporter dans le département de la Pouponnière, qui est juste ici sur ma droite. Il y a Nathalie qui va pouvoir vous accueillir là-bas. Et la même chose, si vous avez des enfants de 0 à 5 ans, il y a Mireille qui va pouvoir vous accueillir dans la zone des explorateurs ici sur la gauche et vous montrer un petit peu comment on fonctionne à ce moment-là. Et les enfants de 6 à 12 ans vont venir nous rejoindre dans la salle un petit peu plus tard au courant du service. Juste avant de quitter avec les enfants, j'aimerais juste prier pour eux, que Dieu puisse toucher leur cœur ce matin. Dieu Tout-Puissant, encore une fois, c'est une grâce d'être ici ensemble ce matin pour adorer ton nom. On veut te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies et ce que tu fais dans la vie de ces enfants. On te prie de les bénir ce matin, de leur donner du bon temps, de les édifier, et que tu puisses être glorifié par la vie de chacun d'eux. Fais ton œuvre dans leur vie, fais ton œuvre dans nos vies, et glorifie ton nom en toutes choses. C'est par le précieux nom de ton Fils qu'on te prie et qu'on te demande ces choses. Amen. Bonne matinée.
Alors, ce matin, nous allons faire la lecture dans la Bible, la parole de Dieu. Vous pouvez ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6 et le verset 9. Donc, Jésus qui dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.
On va prier ensemble. Père éternel, je veux venir dans ta présence. Nous sommes assemblés, Seigneur, pour célébrer tes louanges, pour élever ton nom, pour connaître qui tu es, Seigneur. Connaître davantage qui tu es. Et venir nous placer, placer nos vies devant toi, reconnaissant en toi notre Père céleste, celui qui pourvoit, celui qui prend soin, celui qui donne la vie, celui qui a envoyé son Fils afin qu'il donne sa vie. Père, je te prie de venir nous rencontrer ce matin, là où nous sommes, chacun d'entre nous, personnellement, comme toi seul, bon Père, sais le faire, parce que tu connais chacun de tes enfants, parce que tu connais chaque être humain sur cette terre, dans sa condition bien personnelle, avec ses joies, ses peines et ses luttes, Seigneur. Je te prie de venir nous rencontrer personnellement, individuellement, et de venir nous parler par ton Esprit Saint, à travers ta parole, à travers ce message que je crois que tu as placé sur mon cœur, Seigneur. Viens nous instruire et conduis-nous, je te prie, dans cet endroit si agréable, chaleureux, Seigneur, réconfortant, dans cet endroit où notre cœur vient se soumettre à ta volonté, dans cet endroit où notre cœur vient se reposer en toi, dans ta providence souveraine, dans cette confiance profonde que tu es là, que tu pourvois, que tu prends soin. Et que notre bonheur, notre paix se trouve à chercher ta volonté, à inviter ta volonté dans nos vies. Remplis-moi de ton esprit, je t'en prie, Seigneur, afin que j'apporte ta parole avec vérité et avec puissance, avec humilité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Écoutez, c'est le retour à l'école pour les jeunes, c'est le début de l'année scolaire, c'est le retour des vacances pour plusieurs d'entre vous déjà depuis quelques semaines, mais septembre, c'est quand même ça, c'est un retour et puis on rentre dans la routine, il y a des défis qui s'en viennent devant vous, devant nous, la famille Étier, vos familles, vos foyers, il y a toutes sortes de défis qui sont là, certains d'entre vous, c'est avec l'école, le travail, simplement recommencer à gérer tout ça, toute cette réalité-là. Et ça fait quelques semaines, il y a quelque chose que je médite, qui est sur mon cœur, que j'ai à cœur de vous apporter parce que je le médite moi-même dans ma vie pendant les dernières semaines, pendant les vacances. C'était là, ça trottait dans ma tête, c'était une prière assez régulière devant Dieu. Et selon moi, c'est quelque chose qui vient changer notre attitude, qui peut nous donner une attitude de cœur qui va faire toute une différence dans notre vie, au quotidien, d'accord? Ça va pouvoir sembler un peu théorique ce que je vais vous apporter, mais je crois que si nous adoptons cette attitude-là quotidiennement, chacun d'entre nous, n'importe quel âge, là, 12, 13, 14 ans, 70 ans, peu importe, si nous adoptons cette attitude-là quotidiennement, régulièrement, ça peut faire toute la différence dans notre vie. Et je parle d'une attitude de vie, une manière de commencer la journée, une manière de terminer la journée. Une attitude générale pour nos journées. Je parle d'une attitude qui nous amène à disposer notre cœur d'une certaine manière. Et je vais le résumer comme ça, d'accord? Le meilleur choix qu'on peut faire chaque jour, tous les jours de nos vies, quelles que soient les circonstances, certains d'entre vous, vous êtes dans la souffrance, d'autres, vous êtes dans la joie, c'est l'abondance, tout est cool. Quelles que soient les circonstances, le meilleur choix qu'on peut faire chaque jour est de demander à Dieu de faire sa volonté dans notre vie tous les jours. C'est la meilleure chose à faire pour la gloire de Dieu, évidemment, s'il fait sa volonté, mais c'est la meilleure chose à faire pour mon bonheur, pour ma paix, pour que je sois cool avec la vie. C'est le meilleur choix que je peux faire chaque jour quand je me lève, dans la journée quand je commence à avoir des luttes. Le soir, lorsque je me couche et que je regarde ma journée, puis j'ai des appréhensions pour la journée à venir, le meilleur choix que je peux faire, c'est d'aller dans la prière puis de dire, « Père, que ta volonté soit faite. Mon Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. » C'est simple, c'est la meilleure chose à faire. Et lorsque j'étais en train de méditer là-dessus à travers les dernières semaines, je me disais, c'est probablement, pour beaucoup de chrétiens, c'est probablement l'élément le plus déficient, le point faible de la marche chrétienne de beaucoup d'entre nous. Parce que c'est tough pour de vrai. C'est vraiment difficile à travers la réalité de la vie. C'est correct qu'un dimanche matin comme ça, on est ici, alléluia, la guitare, le drum, on se fait craquer. Ouais, là c'est cool, ça va bien. Mais à travers la réalité de la vie, c'est vraiment tough. Il y a des journées que c'est extrêmement difficile, il y a des journées que c'est avec larmes. C'est tough simplement de rester dans cette attitude de cœur où je dis « Père, ta volonté dans ma vie, non la mienne. » Et c'est tough pour différentes raisons. C'est tough, premièrement, je vais le dire en québécois, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas familiers, je vais vous donner un cours de québécois 101, c'est tough parce qu'on veut runner notre vie nous-mêmes. Je ne veux pas que Dieu runne le show de ma vie. Ce n'est pas mon instinct, ce n'est pas mon réflexe de dire « Dieu, c'est toi qui vas diriger ma vie. » Ça ne m'intéresse pas, ça. Oui, il y a des moments où c'est comme, « Oh oui, je veux ta gloire, Seigneur. » Mais quand Dieu dit, « OK, donc, ça veut dire dans ce domaine-là. » C'est tough, parce que je ne veux pas que ce soit lui qui dirige pour ma vie. Je ne veux pas que ce soit lui qui dirige pour ma vie, peut-être, parce que je crains que l'endroit où il désire me conduire va impliquer de l'inconfort, va impliquer de la souffrance. Donc, je devine ce qui serait la bonne chose, ce qui glorifierait Dieu, ce qui serait la bonne chose à faire, le bon choix à faire, même en me levant le matin. Et ça peut être simplement par paresse, ça peut être simplement aussi par crainte de la souffrance, mais je ne veux pas aller là parce que je sais ce que ça implique, ça. Et donc, à ce moment-là, ça devient difficile de faire cette prière-là. Non seulement par pure rébellion, parce que je dis « Non, je ne veux pas que tu runnes le show », mais parce que je devine que sa volonté peut impliquer de la souffrance et donc je ne veux pas passer par là. J'espère pouvoir éviter ça. Puis si on veut être franc, je pense que c'est tough parce qu'on pense qu'on est plus sage que Dieu. Jamais un chrétien oserait dire « Je suis plus sage que Dieu ». Mais il y a des endroits où, honnêtement, on pense qu'il est à côté de ses feuilles, qu'il est à côté de la plaque, et qu'il n'a pas saisi c'est quoi la bonne chose pour nous. Et moi, je sais c'est quoi la bonne chose, Seigneur. Et il m'arrive d'avoir des gens qui me disent, je sais ce que la Bible dit, je sais ce que la Bible dit, mais Dieu est d'accord avec le choix que je suis en train de faire, même si ce n'est pas en conformité avec sa parole. Et il trouve même une paix à travers ce processus-là. Parce que dans le fond de notre cœur, on pense qu'on est plus sage que Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, Luigi nous a lu ce passage tout à l'heure où Jésus, très brièvement, enseigne ses disciples sur la prière. Et ce matin, je vais me concentrer sur les premiers versets. Jésus leur donne un modèle de prière. Il ne dit pas, vous devez prier comme ça. Il vient juste de dire, de grâce, ne répétez pas constamment les paroles, tout ça. Donc, ce n'est pas la seule manière de prier, mais c'est une instruction qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui devrait composer nos prières. Et voici comment Jésus commence. Jésus commence cela en disant, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En somme, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire que ton nom soit glorifié sur la terre comme il est au ciel et dans ma vie comme il est au ciel. Je te demande, Dieu, que ton règne qui est évident dans les cieux, là où les anges sont en train de t'adorer, soit aussi évident sur la terre et dans ma vie personnelle. Parce qu'évidemment, si j'invite le règne de Dieu sur la terre, bien, je ne vais pas me créer une petite planète à part juste pour moi, je reste là, d'accord? Et Seigneur, que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel, là où les anges te célèbrent. Je veux que ça se passe sur la terre. C'est la prière d'une personne qui lit les journaux, qui regarde le sort de l'humanité, qui regarde comment les choses vont, qui lit la situation en Syrie actuellement, qui regarde la politique locale, qui regarde toutes ces choses-là, puis qui dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur la terre, et si je veux être bien honnête dans ma propre vie, il y a des choses qui ne tournent pas rond non plus. Et c'est simplement la prière de quelqu'un qui dit, regarde Seigneur, si ça dépend juste de nous, c'est un petit peu n'importe quoi notre affaire, fait que je pense que ce serait le temps que tu interviennes. En gros, c'est ça. Cette semaine, en fait, hier matin, je lisais un article de Stéphane Laporte dans la presse, et puis, super intéressant Stéphane Laporte, ouf, ça serait le fun de le voir venir à Christ. Souvent très pertinent. Puis j'étais en train de lire un article, puis il traitait justement de cette question-là, où on regarde ce qui se passe à l'international, puis la tentation est très, très forte juste de décrocher, puis de dire, mais c'est trop gros, je ne peux rien faire là-dedans. Puis il voulait juste nous encourager à s'intéresser à ces causes-là, à ne pas perdre notre humanité, notre solidarité en décrochant de tout ça. Mais en somme, Stéphane Laporte est en train de dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur la terre. Et cette prière-là, bien, c'est cette perspective que lui-même a ajoutée de la foi d'un chrétien qui dit, mais il y a quelqu'un qui peut venir changer des choses bien plus que chacun d'entre nous comme être humain, et c'est Dieu, parce que c'est lui le Créateur. Et donc, c'est une prière toute simple qui dit, Seigneur, tant qu'à nous, si tu nous laisses runner le show, je pense que ça s'en va n'importe où, cette affaire-là. Et c'est vrai dans ma vie comme je le vois dans le monde. Alors, je te demande à toi de venir faire ta volonté dans ma vie tous les jours. Et ce n'est pas facile de prier cela. Ça peut être intéressant de le prier pour la terre, pour la Syrie, pour ces situations-là. Mais dans ma vie personnelle, ce n'est pas facile parce que ça implique des choses concrètement. L'année scolaire commence. Je ne suis pas heureux des profs que j'ai. Je ne suis pas heureux avec les amis, les collègues ou les gens qui vont être dans mes cours avec moi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je m'en vais dans cette attitude où j'accepte que Dieu est souverain sur tout cela. Il y a des tensions à la maison. Mon conjoint ne reconnaît pas ses torts. Les choses ne vont pas comme je voudrais dans notre relation. S'il pouvait voir certaines choses, je pense que s'il pouvait se rapprocher de Dieu, je pense qu'il y a des choses qui pourraient changer. Ça ne se produit pas comme je le voudrais. Les atomes ne sont pas aussi crochus que je voudrais. Seigneur, que ta volonté soit faite à travers ça. Et je reste dans cette disposition où je vais être au service de Dieu dans cette relation-là, plutôt que de me retirer en disant « mais ça ne marche pas ». Je travaille fort pour me refaire une santé. Et on dirait que ça ne donne rien. Plusieurs d'entre vous, vous avancez en âge. Des fois, je vois sur Facebook, je vois l'Église qui vieillit un petit peu, puis hop, c'est des enfants, c'est prise de poids, on va essayer de perdre un petit peu de poids, tout ça. Problèmes de santé qui apparaissent, puis je veux me reprendre en main, je veux faire des choses, je veux être sage, maintenant oui, je veux le faire. Puis ça ne marche pas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, mais la maladie apparaît, la maladie persiste. Seigneur, que ta volonté soit faite, je reste là, je me cherche un emploi. Je me cherche un emploi, puis le collègue, ou bien encore le collègue de travail qu'on me donne au travail est mal commode. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je reste dans cette dépendance-là. J'ai des rêves que j'aimerais réaliser, mais ça ne se concrétise pas. Seigneur, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. C'est pas facile. C'est pas facile. Certains d'entre vous, ce matin, en entendant que c'est ça le christianisme, vous dites, jamais, jamais, jamais je ferai cette prière-là. C'est beaucoup trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Que Dieu me laisse dans des situations inconfortables, que Dieu me laisse dans des endroits où, non, ça ne sera pas bon, puis moi je sais que ce n'est pas bon. Certains d'entre vous, vous ne seriez jamais prêts à faire cette prière-là. Beaucoup trop risqué. Et vous savez quoi? C'est peut-être votre vision de Dieu qui vous empêche de désirer cela. C'est peut-être votre manière de comprendre qui est Dieu. Regardez simplement comment Jésus commence sa prière. J'ai abordé ça il y a environ 2 ans avec l'Église et je reviens sur ça, puis je vais vous référer à cette série-là dans quelques instants. Mais regardez comment Jésus commence cette prière. Jésus ne s'adresse pas simplement à Dieu, mais il s'adresse à notre Père qui est dans les cieux. Je l'ai dit lorsque j'ai fait la série « Dieu le Père » et si toute cette question-là suscite des troubles dans votre cœur parce que cette vision de Dieu comme un Père est difficile pour vous à accepter, je vais vous référer à la série « Dieu le Père ». D'accord? Vous devriez la retrouver avec ce titre-là. Prenez le temps d'aller l'écouter. Mais Jésus ne nous dit pas de s'adresser simplement à Dieu, mais à Dieu notre Père. Pour les chrétiens, le nom de Dieu, il y a un théologien qui a dit ça, j'ai bien aimé ça, le nom de Dieu, c'est Père, Papa. Si j'étais musulman, j'appellerais mon Dieu Allah. Si j'étais un témoin de Jéhovah, probablement que je l'appellerais Jéhovah. Si j'étais un hindouiste, je l'appellerais Brahman. Les chrétiens, eux, appellent Dieu Papa, Père. Bien sûr, Dieu a toutes sortes d'autres noms dans les Écritures et c'est pas mal de prier en disant Dieu, c'est pas mal de prier en disant Éternel, en disant Seigneur. C'est pas que c'est mal, d'accord? Mais Jésus a apporté cette nouvelle perspective sur cette relation que Dieu veut avoir avec nous, celle d'un père avec son enfant, et c'est Jésus qui a apporté cela. Et peut-être que vous n'êtes pas confortable avec ça. Je vous pose une question simple, très pratique. Quand vous priez d'habitude, d'accord? Et là, je ne veux pas que vous repartiez d'ici, vous dites « Ah, tout le monde m'écoute quand je prie. » Non, ce n'est pas ça. Quand vous priez d'habitude, c'est quoi? Comment vous appelez Dieu? Comment vous adressez à Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Seigneur? C'est tout bon, là. D'accord? Bibliquement, il n'y a pas de problème de le dire. Mais encore et encore et encore et encore et encore, dans le Nouveau Testament, Jésus s'adresse à son Dieu, qu'il appelle son Dieu parfois « mon Père ». Et il enseigne à ses disciples à entrer dans cette relation avec Dieu, une relation qui est nouvelle, où j'ai cette conviction profonde qu'il est mon Père. Alors, comment est-ce que tu pries d'habitude? Est-ce que tu vas dans sa présence, avec révérence, puis avec une crainte, puis tu dis « Dieu » ou est-ce que tu vas dans sa présence encore avec ce saint respect, mais en même temps, c'est « Père, Père, j'ai besoin de toi ici, maintenant, parce que tu connais mes besoins. » Est-ce que Dieu est votre Père au quotidien dans votre vie de prière? Ou est-ce que c'est l'Éternel? Est-ce qu'il y a cette distance? Jésus nous a enseigné à voir Dieu comme notre Père personnel. Certains d'entre vous, vous avez de la difficulté à le voir comme ça parce que vous voyez Dieu comme une espèce de gestionnaire universel qui est en train de vous gérer comme une statistique. Si Dieu existe, il est grand puis il est débordé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Bruce the Almighty, Bruce le Tout-Puissant avec Jim Carrey. Puis c'est un petit peu ça l'exercice. Hein? Dieu apparaît à Jim Carrey puis il dit « OK, tu trouves que je ne fais pas une bonne job? Je te confie les pouvoirs, mon homme. C'est toi qui vas runner le show. » OK? Et puis à un certain moment donné, Bruce se retrouve avec les prières. Là, les prières commencent à monter et vous imaginez les millions de prières qui montent à Dieu à chaque minute sur la terre. Et il commence à entendre toutes ces prières-là parce qu'il y a les pouvoirs de Dieu. Puis là, il se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Il s'en va devant son ordinateur, il gère ça comme des courriels, d'accord? Puis là, il voit sa boîte de courriels commencer à déborder, puis à déborder, puis à déborder. Puis il ne sait pas quoi faire avec ça parce que justement, il n'est pas Dieu. Fait qu'il se trouve une espèce de règle où « oui à tout ». Le chaos total embarque. Et peut-être que vous voyez Dieu comme ça. Vous voyez Dieu comme un gouvernement. N'est-ce pas? Notre gouvernement ne nous connaît pas personnellement. Je suis un numéro d'assurance sociale, je suis une statistique. Et lorsque je veux que des choses bougent, je m'en vais vers une autorité quelconque, puis je dis, regarde, là, j'ai besoin de peut-être un numéro pour toi. Il faut que tu mettes un visage, tu connaisses mon nom, il faut que tu t'occupes de mon dossier, là. Dieu est mon Père. Il ne m'a pas donné un numéro d'assurance sociale. Dieu me connaît personnellement. Je n'ai pas de numéro d'assurance sociale avec lui. Je suis en train de lire avec les enfants et avec Esther l'Apocalypse dans notre temps dans la parole ensemble. Et Jésus nous promet que lorsque ceux qui vont vaincre, il va nous donner lui-même un nom personnel à nous. Dieu est notre Père céleste qui nous connaît personnellement. Peut-être que dans votre histoire à vous, ce n'est pas une question facile parce que vous aviez l'impression d'être un numéro pour votre père ou un mauvais numéro pour votre père. Mais ce n'est pas ça que vous êtes pour Dieu. Et je vous encourage à l'écouter la série si c'est quelque chose qui doit être traité en profondeur dans votre vie. Mais moi-même, personnellement, je connais l'amour de Dieu pour moi, je connais l'amour de mon Père pour moi. Et lorsque mon cœur est troublé, lorsque c'est difficile, lorsque des choses que j'appréhende, je n'ai pas de difficulté à aller dans la présence de Dieu et dire, « Père, c'est tough ici, là. C'est difficile pour moi simplement de suivre ta volonté, de marcher avec toi. » Je n'ai pas de doute qu'il est attentif à ce qui se passe dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma vie. Il connaît ma journée, il connaît ma destinée. Et lorsque je pense personnellement à ma relation avec mes enfants, c'est des ados maintenant, bientôt des jeunes adultes, 13 et 15 ans. Et on a encore ce privilège-là d'aller avec eux le soir, prier avec eux avant qu'on se couche, prendre un temps avec eux. Je pourrais parler d'Esther et moi, mais l'image ici, c'est celle d'un père. Et j'ai vraiment ce privilège-là d'être là dans cette relation avec eux où je les accompagne dans leur cheminement, dans leur cœur. Et il y a cette relation de confiance qui est là en sorte que quand on a des discussions puis qui m'amènent à leur dire des choses qu'ils n'ont peut-être pas le goût d'entendre, dans leur cœur, ils savent que ce que j'apporte, c'est le mieux pour leur vie. Il n'y a pas de doute qui est là. Ils savent que ce que je leur apporte, c'est le meilleur pour leur vie. C'est vraiment un privilège que j'ai parce qu'une relation, ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Et donc, votre réponse, ma réponse à moi, à Dieu, est aussi déterminante dans cette relation-là. Mais Dieu, merci, j'ai cet énorme privilège d'avoir cette relation père avec mes deux ados. Puis lorsqu'on jase ensemble, je sais qu'il y a une relation de confiance et on va parler de leurs rêves, on va parler de leurs ambitions. Et à certains moments, je vais intervenir, puis je vais les reprendre, puis je vais leur dire, regarde, il faut corriger quelque chose dans ta vie. Et ils ne vont pas douter que je le fais pour leur bien, par amour pour eux. Mon affection, ils la connaissent. C'est cette même relation que j'ai avec mon Père céleste. Parce que je sais, je connais son amour pour moi. Je n'ai pas de doute quant à son amour pour moi. Jésus avait cette vision de Dieu parce qu'il connaissait son Père céleste. Jésus savait que tout ce que son Père voulait, c'était pour sa gloire et pour le bonheur de Christ lui-même, pour le bien. Et donc, il était capable quotidiennement de chercher, de désirer, de prier que Dieu, son Père, vienne faire sa volonté dans sa vie parce qu'il connaissait l'amour de son Père. Il savait que tout ce qu'il faisait était la bonne chose pour lui. Lorsqu'on lit les évangiles, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous frapper. Si vous n'avez jamais lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, prenez le temps de lire un des quatre évangiles. Allez rencontrer personnellement ce Jésus-là dont les êtres humains parlent depuis 2000 ans. Mais une des choses qui ressortent lorsqu'on lit les évangiles, c'est qu'il y a une paix. Il y a une force tranquille en Jésus. Il y a une confiance en Dieu qui est là, extrêmement puissante. Et on pourrait appeler ça le secret du bonheur de Jésus. J'ai jamais aimé les livres. Hier, j'étais dans une librairie, puis je m'en vais dans la librairie, puis toutes les sections avec les sept recettes du bonheur, puis tout. Je ne suis pas capable, d'accord? J'ai jamais aimé ces patentes-là, des recettes, puis des clés, puis tu vas être heureux, mais je vais le prendre ce matin, cette formule-là. Il y a un secret pour le bonheur de Jésus. Cette force tranquille qu'on voit en lui, où il est confiant, il est paisible, il est fort. Cette force-là, on pourrait croire que c'est dû au fait qu'il est Dieu le Fils. Pourquoi est-ce que Jésus était confiant? Parce qu'il était tout puissant. Jésus s'adresse à l'océan, puis à la mer, puis il calme les éléments. Alors, on pourrait croire que c'est parce qu'il est Dieu le Fils. Mais il y a quelque chose aussi. Il y a quelque chose d'autre qui revient constamment dans son discours. Jésus cherchait constamment la volonté de son Père dans sa vie. Je vais juste vous lire quelques versets, d'accord? Dans Jean 4, 34, ils vont être affichés à l'avant, Jésus dit, écoutez bien ceci, « Ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ici, c'est Dieu le Fils qui parle, celui qui a tous les pouvoirs, celui qui a toute la sagesse, celui qui savait ce qui était bon pour lui-même. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de ce combat en nous-mêmes où on dit, « Non, mais moi, je sais ce qui est bon pour moi. Mais s'il y avait quelqu'un qui savait ce qui était bon pour lui, c'était Jésus. Pourtant, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé son Père, qui l'avait envoyé son Père. Dans Jean 5, 30, Jésus dit encore, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus se nourrissait quotidiennement, il nourrissait son cœur, il nourrissait son âme de la volonté de son Père céleste. Quotidiennement, il était alimenté par ce désir de dire, « Père, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi ta volonté? C'est ça que je veux faire. » Constamment, c'était sa nourriture quotidienne. Et je crois que c'est juste, j'ai même pris le temps d'aller voir notre théologien en résidence, Alexandre, cette semaine, pour dire, « Je vais dire quelque chose, je vais dire qu'il y a un secret au bonheur de Jésus. » Tu sais. Tu sais, c'est discutable comme formule parce que c'est Dieu le Fils, fait qu'il y a-tu besoin d'un secret pour être heureux? Mais j'ai dit, « Es-tu à l'aise avec ça? » Puis les versets commençaient, les mêmes versets commençaient à venir à l'esprit d'Alexandre. Il dit, oui, mais c'est ça que Jésus a enseigné. C'est que son secret, c'est qu'il cherchait constamment à faire la volonté de son Père. Il y avait cette soumission constante à son Père. Et donc, le secret du bonheur de Jésus, au-delà de toute sa puissance et sa gloire, c'est qu'il y avait cette attitude de cœur quotidienne, à chaque instant, à chaque moment, où il se nourrissait de vouloir faire la volonté de son Père. Même si cela semblait dire que c'était pour son malheur. Même lorsque cette attitude-là annonçait beaucoup de souffrance qui s'en venait. Alors, pensez à Gethsémané. Quelques heures avant son arrestation, quelques heures avant qu'il soit battu, quelques heures avant sa crucifixion, quelques heures avant qu'il soit maudit sur la croix par son Père parce qu'il allait devenir péché. Il allait prendre le péché des hommes pour notre salut. Quelques heures avant ça, il se retrouve dans le jardin de Gethsémané. Et à ce moment-là, lui qui connaissait toute la sagesse de Dieu, il connaissait le plan de match. Jésus est venu sur la terre dans un but précis. Au-delà de tous les enseignements qu'il a apportés, au-delà de tout ça, il est venu dans un but précis. C'était quoi? Se rendre à la croix. C'est ça le but. Jésus est venu pour mourir. Jésus est venu sur la terre pour être maudit par son Père. Afin que le salut puisse être offert aux hommes. Lorsqu'il se retrouve dans le jardin de Gethsémané, il y a un conflit intérieur qui est là. Parce qu'il connaît la volonté de son Père, il la connaît pertinemment, il sait qu'est-ce qu'il attend, et il y a un conflit intérieur parce que la volonté de son Père implique énormément de souffrance pour lui. Implique un malheur momentané, mais un malheur profond pour lui. Dans Matthieu 26, 39, c'est Jésus qui s'en va prier. Voici ce qu'on lit, Matthieu raconte. « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe, en parlant de la croix, cette coupe de la colère de Dieu qu'il allait prendre, d'accord, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et Jésus va retourner prier pendant un bon bout de temps avec ce combat intérieur. Alors, voyez-vous, je ne suis pas en train de dire ce matin que décider d'avoir cette attitude-là au quotidien, tout à l'heure en quittant l'église demain matin, ça va être quelque chose de simple et facile. Puis, pour prendre un terme qui vient d'une autre religion, que je vais être zen tout le temps. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes. Mais même à ce moment-là pour Jésus, ça demeure la meilleure prière à faire pour la gloire de son Père et pour son bonheur à lui. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour lui. Et c'est ce qu'il fait qu'à la fin, il va dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Parce que je te connais, je connais ton amour, je connais ta sagesse, je connais ta bonté. Je sais que ce que tu veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et le résultat, de la soumission de Jésus à ce moment-là, de cette simple prière qu'il avait enseignée à ses disciples à faire quotidiennement. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est l'Évangile. Parce que Jésus, à tous les jours de sa vie, à chaque instant de sa vie, était dans cette attitude où il disait, « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, je suis sur terre, que ta volonté soit faite ici dans ma vie, comme elle l'est faite au ciel. Parce que c'était sa prière quotidienne dans ce moment de difficulté, ça a été encore sa prière. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est l'Évangile. Il a persévéré jusqu'à la fin et Dieu nous a montré son amour d'une manière incomparable en donnant son Fils sur cette croix. Et parfois, je parle avec des gens qui sont cyniques par rapport à Dieu et qui vont dire, oui, c'est ça, Dieu le Père. Hein? Tu vois, il est encore là, ton gestionnaire. Il a dispatché son Fils pour aller mourir sur une croix. Il ne l'a pas fait lui-même. Les gens qui disent ça n'ont jamais eu d'enfant. Ou ils n'ont jamais eu un cœur de père. Parce que si vous me demandez de donner mes enfants, c'est pas vrai que c'est simple comme ça. Et la paternité, moi, je ne l'ai pas connue comme Dieu. Cette communion éternelle entre le Père et le Fils, je ne la connais pas avec mes enfants. Et cette déchirure qui s'est passée entre Dieu, le Père et Dieu, le Fils, au moment où il maudit son Fils sur la croix pour qu'il devienne péché, je ne la comprends pas, je ne la comprendrai jamais. Mais voyez-vous cette simple attitude quotidienne de Jésus? Le conduit là dans le jardin de Gethsémané, au moment où c'était le plus difficile de continuer à faire cette toute petite prière chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie sur la terre comme au ciel, a eu pour résultat l'Évangile, la possibilité pour tous les êtres humains d'être réconciliés avec Dieu à cause de la soumission de Jésus. Alors, dans votre vie à vous, dans ma vie à moi, essayez d'imaginer un instant si quotidiennement, comme chrétien, c'est notre attitude d'inviter Dieu à faire sa volonté dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire à travers ça autour de nous, dans notre cœur premièrement, pour sa gloire et dans la vie des gens autour de nous? Si comme Église, c'est notre attitude cette année, quotidiennement, matin et soir, de dire « Père, viens faire ta volonté, je te connais, je connais ton amour pour moi. Tu as donné ton Fils pour moi. Viens faire ta volonté dans ma vie. Viens faire ta volonté sur cette terre, Seigneur. » J'ai invité Stéphane Rondeau à venir me rejoindre à l'avant. J'ai demandé à Stéphane de venir vous partager un court témoignage. Stéphane et moi, nous connaissons bien, on se connaît bien. Puis j'ai été un témoin privilégié des dernières années, à l'expérience de Stéphane au travail, tout ça, et des moments qui n'ont pas été faciles souvent, puis je vais laisser parler de ça. Mais j'ai été aussi un témoin privilégié de ses luttes, de ses combats, et on a prié ensemble, j'ai prié pour lui, et je l'ai vu à travers ça chercher la face de Dieu, chercher la gloire de Dieu, et j'ai pensé qu'un témoignage rendrait tout ça plus concret ce matin.
Merci. Je ne vais pas préparer beaucoup de choses, je vais être bref. Si la soumission de Jésus à la volonté de Dieu, c'est l'Évangile, je vous le dis tout de suite, moi, c'est beaucoup moins que ça. C'est pas aussi glorieux. Mais Dieu se glorifie effectivement dans ce qu'on fait. Yannick a parlé tantôt de, parfois, dans un contexte de travail, Dieu nous met des malcommodes. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Moi, c'était mon cas. J'étais moi-même malcommode un petit peu, mais il y avait une malcommode vraiment solide autour de moi qui... a causé, je vous dirais, beaucoup de souffrance, pas juste à moi, mais aussi à des gens qui étaient autour. Je vous dirais que je vivais dans un milieu de travail qui était toxique. Je ne sais pas si vous comprenez bien le principe. Donc, beaucoup de souffrance, du harcèlement, de la pression, de la médisance, des promesses non tenues, des coups de couteau dans le dos. Écoutez, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Et moi, ma réaction par rapport à ça, c'était une réaction de colère. Hein, ce sentiment de justice. Pas pour rien que les films de vengeance sont si populaires, parce que quand une bonne vengeance, on se dit « justice est faite ». Et moi, pendant des années, j'ai prié pour que la justice de Dieu se fasse. Alors, pour vous dire, Dieu obéit pas nécessairement ou répond pas nécessairement à ce genre de prière-là, mais je peux vous dire que malgré tout ça, j'étais conscient de mon péché. J'étais conscient de cette colère qui était là tous les jours. Et ma prière quotidienne, et je vous dis quotidienne, c'était « Seigneur, travaille mon cœur, aide-moi à avoir la bonne attitude envers cette personne-là et d'autres personnes aussi, mais une en particulier. » Et en même temps, bien, Seigneur, sors-moi de là parce que c'est plus fort que moi. C'est trop gros pour moi. Je peux pas supporter ça. Et la réponse de Dieu a été pendant des années, il y en a qui ont été témoins de ça pendant des années, non, reste là, puis travaille ton cœur encore, puis continue à faire cette même prière quotidienne. Alors, j'ai continué à prier, évidemment, mes prières sont devenues plus précises, évidemment, concernant la colère qui était là, et le constat que je faisais encore il y a quelques mois était un constat d'échec. Ça fait 30 ans que je suis chrétien, et ces dernières années, je devais admettre que j'avais c'était un constat d'échec. Comment ça se fait que je prie tous les jours pour avoir le contrôle sur la colère et que à tous les jours je pêche? C'est une occasion de chute énorme pour moi. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et en même temps, donc, prier pour que le Seigneur me sorte de là. Et donc, j'ai continué à prier. J'ai fait aussi ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas juste prier. Il faut aussi poser des gestes. Donc, j'ai refait mon CV, j'ai retourné à l'école, j'ai envoyé justement des CV. Et il y a deux mois, le Seigneur m'a sorti de cet environnement toxique, vraiment par sa grâce. Je ne vous dirai pas que Dieu avait réglé le problème de colère dans ma vie, quoi qu'à la fin, je me battais plus, je laissais les choses aller, mais c'était vraiment trop lourd, je n'étais plus capable de rester là. Et Dieu a répondu finalement à cette prière, mais vraiment en son temps, ça a été très, très, très long pour le faire. Et peut-être ce que je voulais dire aussi par rapport à la colère, c'est que, vous savez, ce sentiment d'échec que Dieu me faisait vivre, c'est dur sur l'orgueil, ça. Hein? Quand tu as un sentiment d'échec, tu n'es pas en train de te péter les bretelles en disant « Hey, moi, je suis un chrétien, là, numéro un. Vous autres, vous êtes des pécheurs, hein? » Yannick, que ça sonne.
Le temps est écoulé.
Mon temps est écoulé.
Le mien aussi.
OK. Écoutez, je vais faire ça quand même rapidement. Mais ma prière, donc, était, et peut-être juste aussi là, à un moment donné, on pense qu'on est en train de devenir fou. Et quitter un emploi, c'est pas facile. Je suis plus jeune. Et puis, ça faisait 20 ans que je travaillais pour cette compagnie-là. Et ma prière, dans les derniers temps, était vraiment celle-ci. Seigneur, je suis tellement à bout que la première offre d'emploi qui s'offre à moi, je vais l'accepter. Donc, s'il te plaît, ferme les portes. Si ce n'est pas ta volonté que je quitte Amico, que je quitte cet endroit-là, ferme les portes, je n'ai plus aucun jugement. La première offre qui va tomber dessus, je vais la prendre. Et là, c'est peut-être cette épreuve qui m'amène dans cet état de complète soumission où on pense pas qu'on est assez fort pour prendre des décisions et qu'on a vraiment besoin que Dieu prenne ces décisions-là pour nous. Et vraiment, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse et non pas notre volonté. Parce que on ne sait pas c'est quoi qui est bon pour nous autres. Dieu sait c'est quoi qui est bon pour nous autres. Et je suis convaincu aujourd'hui que ces années-là ont fait en sorte que Dieu m'a transformé. Et je me permets encore une minute, parce que la semaine dernière, ça fait deux mois que j'ai quitté mon emploi, et pour vous dire que j'ai changé de job et que la colère n'était pas, quand tu n'es plus dans le conflit, il n'y a plus de colère. Mais quand ça revient, est-ce que la colère revient? La semaine dernière, j'apprends que mon ex-employeur a dit quelque chose en meeting, etc. Et là, sur moi, évidemment. Et là, la colère remonte. Et là, je passe une nuit d'insomnie. Ceux qui sont mes amis Facebook en ont été témoins. Et vraiment éprouvant. Et mon sentiment était ce sentiment de vengeance, encore une fois, de justice. Et je me voyais en train de dire à la personne, un jour, là, Dieu va te rattraper, toi. Non, non. Littéralement. Un jour, Dieu va te rattraper. Et là, par la grâce de Dieu, ce qui est venu dans mon cœur, c'est oui, Dieu va le rattraper, mais il peut se passer deux choses quand il va le rattraper. Soit que Dieu va le rattraper dans sa colère, ou soit que Dieu va le rattraper dans sa grâce. Comme moi, il m'a rattrapé dans sa grâce. Et pour la première fois, j'ai été capable de prier pour mes ennemis. Prier pour que Dieu le rattrape dans sa grâce si possible. Dans sa grâce.
Merci, Stéphane. Ça valait la peine. Hein? J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Je ne connais pas vos luttes, vos combats. Et certains d'entre vous, les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à faire cette prière-là, ce sont des situations difficiles, comme Stéphane a vécu, des situations où il y a un combat qui est profond. D'autres, c'est très quotidien. C'est simplement chercher cette sagesse le matin lorsque je me lève de dire, « Père, aujourd'hui, quoi qu'il advienne dans ma journée, je désire faire ta volonté. » c'est ça que j'ai besoin de faire comme prière. Et la paresse me garde de faire ça, puis je vais juste gérer les journées par moi-même. J'espère que ce matin, vous allez prendre cette décision dans votre cœur de faire de cette prière-là une prière quotidienne où vous allez être en train de dire, « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ma vie, Seigneur. » Parce que ça engage la souffrance ou non, je ne voudrais pas être ailleurs que dans ta volonté. Je désire de tout mon cœur être dans ta volonté parce que j'ai connu, Père, ton amour pour moi. Et peut-être justement que vous êtes dans ce cheminement où vous êtes en train de découvrir l'amour de Dieu pour vous. Parce que Dieu pour vous, c'était cet être éloigné qui a de l'air peut-être d'en avoir échappé une coupe lorsque vous regardez la terre puis vous dites comment ça va tout ça. Mais tranquillement, vous êtes en train de découvrir l'Évangile, ce que Jésus-Christ a fait en venant mourir sur cette croix. Et vous êtes en train de découvrir finalement que ce Dieu-là vous a aimé personnellement. Et devenir chrétien, c'est aussi faire cette prière-là. Père, je reconnais que par moi-même, ma vie, je ne peux pas la conduire moi-même. Si c'est juste moi, c'est n'importe quoi. Ce ne sera pas pour ta gloire et ce ne sera pas ce qu'il y a de mieux. Et je reconnais que je ne suis pas près de toi, Dieu. Parce que longtemps dans ma vie, j'ai dit, certainement pas ta volonté, mais la mienne, par mon style de vie, par mes choix, n'importe quoi. Mais j'arrive à cet endroit, à cette intersection où je rencontre Dieu et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ce que Christ a accompli sur cette croix. En mourant sur cette croix, il est venu payer pour les péchés de tous ceux qui placeraient leur foi en lui, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés.